Alors, je vous parle aujourd'hui d'un homme qui s'appelle Louis Veuillot. C'est un homme ordinaire au point de départ. Il a vécu dans une famille pauvre et modeste. Et puis, qu'est-ce qui a fait que petit à petit, c'est devenu un soldat du Christ? C'est ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui. Alors, je me suis posé la question, premièrement, parce que le sujet est très vaste et puis on a très peu de temps, je pense une heure et demie. Je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on va faire exactement pour vous faire connaître Louis Veuillot? Parce que c'est quelqu'un de tellement extraordinaire, qui a fait tellement de choses. Il a écrit près de 40 000 pages de textes différents. Donc, c'est entendu que je n'ai pas lu ces 40 000 pages-là. Je m'excuse, mais je vais s'y retirer. Bon. Plus fort? OK, donc c'est ça, j'ai pas tout lu là, ses œuvres, c'est entendu. Et puis, j'ai dit, ce qu'on va faire, on va prendre sa vie de manière chronologique, bon, avec les événements les plus importants, et puis on va le faire parler lui-même aux différentes occasions là, qui ont marqué sa vie. Donc, c'est ça, autrement dit, c'est le même que je vais faire. Bon, il est né en 1813, le 11 octobre, dans une petite région de France qu'on appelle le Gâtinais. Il est resté chez sa grand-mère pendant 5 ans. Il a été séparé de sa famille ensuite jusqu'à l'âge de 10 ans chez sa grand-mère parce qu'à l'époque, les conditions économiques étaient très difficiles. Donc, souvent, les parents répartissaient les enfants chez les grands-parents, les oncles, les tantes, etc. C'est ce qui est arrivé pour lui. Ensuite, il est allé jusqu'à l'âge de 14 ans, il est retourné avec sa famille. Là, il a vu qu'il y avait des frères et sœurs. Bon, d'accord, très bien. Et puis, il a fait des petites études tranquilles au village. Pas des études chez les pères ou quoi que ce soit. Des études dans une école laïque, donc une école dans laquelle on ne pouvait pas enseigner la religion. C'est ce qui fait que malgré qu'il soit venu d'une souche chrétienne, sa famille était chrétienne, bien, il est resté ignorant des choses de la religion pendant plusieurs années. Alors, il n'a pas été différent des autres élèves laïcs sans religion de son époque, si ce n'est qu'il a toujours eu une honnêteté foncière. C'était quelqu'un qui recherchait toujours la droiture dans toutes choses. C'était peut-être une grâce naturelle que le bon Dieu lui a faite. Et puis, au point de vue de son adolescence, à 14 ans, sa mère l'envoie à Paris, toujours pour des considérations économiques, et puis elle réussit à lui obtenir un poste chez un notaire, donc un petit poste, un clerc, celui qui écrit, il mettait les timbres sur les lettres, puis il écrivait les adresses, là, tu sais. Ça fait que ça, c'est jusqu'à l'âge de 18 ans. Cependant, ce notaire-là était le frère d'un grand poète très connu de l'époque, qui était Casimir de Lavigne. Alors, tous les jeunes qui étaient là, ils voulaient faire comme Casimir, hein, et puis être dans la gloire, et puis etc., etc. Donc, tout le monde s'est mis à piocher dans les livres, étudier la littérature, la poésie, tout le monde faisait ses petits poèmes, puis bon, ça allait bien comme ça. Lui, évidemment, c'était un bourreau de travail, et puis il a bûché encore plus que les autres. Ce qui fait qu'il a rattrapé un petit peu le manque qu'il avait eu comme formation au cours de sa jeunesse. Et puis, de fil en aiguille, il se fait connaître un petit peu, parce qu'évidemment, bon, le notaire est quand même connu. Et puis, quelqu'un l'engage dans un journal en province, un petit journal, une petite feuille de chou, là, 2 pages. Et puis, pour la chronique locale d'un petit village, là, tu sais, c'est l'écho de la Seine inférieure. Alors, il ne se passe pas grand-chose, c'est un petit peu comme si on l'envoyait, je ne sais pas moi, à Lauzon, pour dire qu'est-ce qui se passe dans la ville de Lauzon, tu sais, je veux dire, il faudrait qu'il l'invente, bon. Ça fait que, ensuite de ça dure un an. Bon, 18 ans, 19 ans, puis là, quand même, le gars, il a du style, puis tout, ça fait que là, il se fait recruter par un journal un peu plus important. C'est toujours comme ça que ça commence, là. C'est petit à petit, en bas de l'échelle, puis on monte. Fait que là, il s'en va pendant 4 ans, jusqu'à 23 ans, à Périgueux, encore en province, au Mémorial de la Dordogne. Et puis là, c'est là qu'il va faire ses premières connaissances, vraiment avec le journaliste, parce qu'il va caricaturer un petit peu les gens de là-bas, la noblesse, la haute société dans laquelle il est reçu. Et puis, pas méchamment, mais un petit peu pour montrer les travers de ces gens-là. Puis ça, ça va l'habituer à se former un style journalistique qui va lui demeurer plus tard. On va voir qu'il sait très bien reconnaître les failles de ses adversaires. Puis c'est là qu'il a eu son apprentissage. Et à ce moment-là, il connaît un jeune homme qui vient de se convertir, qui s'appelle Gustave Olivier, qui est journaliste lui aussi. Et puis Gustave, hein, bon, il vient de se convertir, tout feu, tout flamme, c'est très beau et tout. Bon, alors, Louis, hein, tu ne vas pas rester comme ça dans l'indifférence. En vrai, viens-t'en, puis il canardait, et puis vraiment, là, disons que Louis, il résistait à la grâce de conversion, mais parce qu'il ne voyait pas vraiment l'avantage. Il disait que les autres catholiques qu'il voyait n'étaient pas des bons catholiques, puis il n'était pas vraiment convaincu, il ne luttait pas vraiment pour leur foi. Donc, il disait à son ami, « Bien, moi, je ne veux pas non plus être catalogué parmi ces gens-là. » Mais il était quand même impressionné quand même par la religion là, sous ses beaux aspects. Ensuite, de 23 à 25 ans, il est demandé par le premier ministre Guizot à Paris. Donc, on voit qu'il commençait à avoir des relations. Là, je veux dire, il y a 25 ans, puis il y a un premier ministre qui l'appelle pour travailler dans son journal. Et puis, c'est que Guizot était le premier ministre. À l'époque, ça venait, il y a eu une révolution, comme en France, il y en a tout le temps, des révolutions. Ça fait que lui, c'était une restauration monarchique, plus ou moins libérale, catholique, etc. Ça fait qu'il dit, bon, ben, j'ai besoin de journalistes, là, puis il appelle tout le monde à sa rescousse, puis il fonde un journal qui dure peut-être 2-3 mois. Bon. Mais c'est pas grave, ça le fait connaître, puis là, il travaille dans d'autres journaux en même temps, là. Disons qu'il est obligé de travailler dans 3 journaux pour vivre, parce que il faut que tu écrives pour pouvoir manger, il faut que tu écrives pas mal. Et plus tard, à l'âge de 25 ans, donc on est en 1838 à l'époque, il y a Gustave Olivier qui l'invite en voyage. Il dit là, c'était la grande mode à cette époque-là, le voyage en Orient. Donc, on partait de la France, on faisait la Suisse, l'Italie, ensuite ce qu'on appelle la Yougoslavie qui n'existe plus aujourd'hui, là. Et puis ensuite, on continuait la Grèce, la Turquie, puis on faisait le tour, là, Jérusalem, puis c'était le voyage d'Orient. À l'époque, c'était un peu une mode pour les écrivains de faire ce voyage-là, puis de relater ensuite toutes les péripéties de leur voyage, tout ce qu'ils voyaient durant leur épopée. Et puis, bon, ben, ça, ils éditaient ça, puis avec ça, ben, ils pouvaient vivre quand même, c'était assez populaire. Donc, les deux se sont dit, tiens, on va y aller, et puis en revenant, on écrira une série de livres, puis comme ça, ben, on ne sera pas obligé d'écrire dans 36 journaux différents. Ça fait que Louis, il dit, il n'y a pas de problème, j'embarque, puis il va. Et puis, ils s'en vont à Rome. Puis là, tout à coup, à Rome, c'est le coup de théâtre, il se convertit. Alors, il arrive devant les splendeurs des les basiliques romaines, il voit les tombeaux des saints martyrs, il assiste à une messe du pape, et puis ça l'impressionne beaucoup. Là, il arrive vraiment à la racine de ce que c'est que la religion catholique, et puis c'est ce qui va finalement là, lever les derniers doutes qu'il pouvait avoir encore. Donc, il se convertit à l'âge de 25 ans. Et puis, ce n'est pas une conversion à moitié, là. Vous allez voir par la suite qu'il va rattraper le temps perdu. Et puis, il se convertit là, de façon totale. Et il se pose même la question de la vocation, etc. Donc, il va faire une retraite à Fribourg, en Suisse, chez les pères jésuites. Et puis, à ce moment-là, il reste 4 ou 5 semaines. Et puis, il fait une retraite, puis il étudie l'histoire de l'Église. Il étudie toute la doctrine qu'il n'avait pas pu apprendre pendant son jeune temps. Et ensuite, il décide de faire un pèlerinage en Suisse. Et puis, il va visiter tous les lieux de culte en Suisse. Et ça va être la matière de son premier livre, « Les pèlerinages suisses », qui est un livre vraiment très, très beau. Et puis là, il dénonce avec vigueur le protestantisme, ses origines, et puis ce qu'on voit dans la pratique 300 ans après, à son époque. Alors, c'est un livre aussi plein d'humour et puis charmant. Il fait de l'apostolat aussi, il écrit beaucoup à ses amis pour raconter, évidemment, sa conversion, parce que là, imaginez-vous, c'est un jeune journaliste, il se fait plein d'amis partout, le premier ministre l'invite, tout ça. Alors, puis tout à coup, il se convertit, puis il dit, bon, maintenant, ça y est, je suis catholique, si vous me suivez pas, ben moi, je vous suis plus non plus. Et puis, alors, il y a plein de monde qui écrit, puis qui disent, ben, qu'est-ce qui se passe, puis c'est donc malheureux, puis c'est triste à être catholique, puis tout ça. Ça fait qu'à un moment donné, il répond. Ben, il répond, il a répondu plusieurs lettres. Mais, entre autres, je vais vous lire un extrait, parce que c'est encore mieux de savoir qu'est-ce que lui-même dit. Il écrit à un de ses amis. Il dit, « Avez-vous su, mon ami, la grâce que Dieu m'a faite? Je me suis converti à Rome. J'ai pris la bonne résolution de pratiquer, comme tous les fidèles, les devoirs de la religion, renonçant à beaucoup de choses et croyant bien, je l'avoue franchement, renoncer à toute espèce de bonheur en cette vie. » Donc, au point de départ, pour lui, la conversion, là, il renonçait à tout, puis c'était comme ça, puis c'était le visage de carême, tu sais. « Que je me trompais! Dieu rend plus qu'on ne lui donne. » Alors ça, c'est un beau témoignage. « Il m'a d'abord accordé la persévérance, premièrement. Puis, après quelques mois d'un grand trouble, » oui, effectivement, il a été troublé durant les premiers mois, il se demandait s'il avait bien fait, puis s'il s'en sortirait, « il a mis dans mon cœur l'espérance et la paix. Ce sont des biens qu'il faut tenir de lui pour les apprécier à leur vraie valeur. » Car, vous pouvez m'en croire, les joies du monde ne savent rien de ces joies-là. Donc, vraiment, il montre que c'est la joie surnaturelle qui est la seule vraie joie. Sans doute, il faut lutter encore et quelquefois rudement, mais quelle différence de ces luttes où le bien triomphe toujours à celles où l'on était vaincu toujours par le mal. Enfin, mon cher Armand, dans ce temps-là, il y avait des noms... qui sont moins usités de nos jours, tout ce que je puis vous en dire, c'est que j'aime mes amis à présent 100 fois plus que je ne les aimais, et que je ne désire pas pour eux de plus grand bonheur que celui d'aimer et de servir Dieu. Ma vie est devenue bien humble et bien modeste. J'ai renoncé entièrement aux journaux. C'est un fait que, après sa conversion, il a vu qu'il ne pouvait plus continuer à parler des spectacles, de la dernière danseuse venue d'opérette, puis tout le kit là. Là, il dit non, c'est fini, tu sais. Alors, j'ai renoncé entièrement aux journaux. J'ai quelques petits travaux obscurs qui me font vivre. Dieu me donne chaque jour le pain quotidien que je lui demande chaque jour, et je suis content. Ce que je ferai, ce que je deviendrai par la suite, le regarde. Évidemment, il ne pouvait pas savoir que par la suite, il viendrait une célébrité qui sera accueillie à bras ouverts par les cardinaux et même les papes. Mais à l'époque, il ne savait pas. Il dit, je ne m'en inquiète pas et je me tiens prêt. La première ordure qu'il est enlevée de mon cœur, c'est l'ambition. Donc, la première ordure que Dieu a enlevée de son cœur, c'est l'ambition. Maintenant, il n'y a qu'une seule ambition, c'est celle de bien servir Dieu. Ça, c'est pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que lui-même pensait. Voyez-vous, tous ses livres sont comme ça tout le long. C'est très beau, c'est très spirituel. Moi, je vous donne quelques petites gouttes comme ça, là. Tout à coup, il y a un journal, un petit journal plus ou moins catholique, disons plus catholique que les autres, qui s'appelle « L'Univers », une feuille de chou, encore une fois, et puis qui donne quelques articles. Puis à un moment donné, il y en a un contre le général Bugeaud. C'est qui ça, le général Bugeaud? C'était le propriétaire de son journal pour lequel il travaillait à Périgueux. Et puis c'était un héros des différentes guerres qu'il y a eu dans cette époque-là. C'était un homme très droit, un homme catholique en plus. Et alors Louis Veuillot décide de le défendre. Et il écrit à l'univers une lettre rectificative que l'univers va publier avec des excuses pour le général Bugeaud. Mais là, à ce moment-là, les lecteurs de l'univers, puis les chefs de ce journal-là aussi, voient le talent de ce jeune homme et lui demandent de collaborer avec eux. Et lui, il accepte d'y rentrer pourvu que le journal adopte vraiment officiellement une ligne catholique en tous les points, obéissance au pape, parce qu'à l'époque, il y avait le gallicanisme encore en France. Et puis, parler pour le pape à l'époque, c'était parler un peu contre la France. Hein. Ça fait que lui, c'est la ligne ultramontaine qu'on appelle, donc au-delà des montagnes. On arrive en Suisse, et puis, pas en Suisse, excusez, là, à Rome, et puis à Rome, c'est le pape. Donc, il décide de travailler là. Ensuite, bon, il fait les propos divers, le premier Paris, donc des petites chroniques pour le journal, et puis il travaille toujours gratuitement à l'Univers. Cependant, évidemment, comment fait-il pour vivre? Eh bien, Guizot, son protecteur à l'époque, l'emploie comme fonctionnaire, petit fonctionnaire, dans un ministère à Paris. Donc, gratte-papier un petit peu, et puis, n'est-ce pas, c'est ça. C'était très relax. Il pouvait arriver à 2h de l'après-midi, puis partir à 5h. Puis, à l'époque, les fonctionnaires étaient encore mieux traités qu'aujourd'hui. Donc, vous voyez que c'est quand même assez considérable. Alors, c'est pour ça qu'il a écrit plein de livres durant cette époque-là, parce que même il apportait des livres au bureau, il n'y avait rien à faire. Alors, il a écrit un petit opuscule qui s'appelle « Le Saint-Rosaire médité ». Donc, on voit tout de suite ses préoccupations, c'était aider les catholiques à mieux prier. Donc, il écrit ce petit opuscule. Et puis, Pierre Saint-Yves, qui est un roman dans lequel il met en opposition un jeune homme comme il était auparavant, donc un petit peu irreligieux, pas irreligieux, mais sans religion, et un jeune converti, et puis il montre un petit peu la supériorité du second sur le premier. Ensuite, tout le monde lui écrit, il commence à être quand même assez connu, parce que ses livres ont un certain retentissement, et il écrit « Rome et Lorette ». Lorette, ce n'est pas le nom d'une femme, là, c'est le sanctuaire de Lorette en Italie. Et puis, ça, c'est l'histoire de sa conversion. Alors, il raconte pourquoi il s'est converti, toutes les étapes, etc. Bon, disons que je ne vous le lirai pas, là, parce qu'on n'a pas le temps. Et puis, en 1841, il a 28 ans, Guizot, toujours, qui est encore son ami pour le moment. Plus tard, ça va changer, évidemment. Guizot décide de l'envoyer comme employé du ministère en Algérie. Alors, il lui paye un voyage. Il lui dit, vas-y, tu vas rester 6 mois là-bas. Tout ce que tu as à faire, c'est de me renseigner un peu sur ce qui se passe avec les Arabes, puis tout ça, puis l'armée, comment ça va, les batailles, puis bon. Ça fait qu'il s'en va rejoindre le général Bugeaud, qui est devenu maréchal depuis, donc qui est son ami. Et puis là, il est dans une situation vraiment privilégiée pour connaître qu'est-ce que ça a été la conquête de l'Algérie. Alors, on sait que l'Algérie tient beaucoup à cœur à nos chers compatriotes, nos chers cousins de France. Mais il faut voir qu'au point de départ, c'est pas tout le monde qui était catholique puis qui avait un but de convertir ces gens-là. Et puis, par la suite, évidemment, l'Église a été bien acceptée, mais le gouvernement qui était en France, à l'époque de la conquête d'Algérie, n'était pas un gouvernement officiellement catholique. Ce qui fait que, bon, il y avait un évêque, mais restez dans votre petite chapelle, Monseigneur, puis faites pas trop d'apostolat, parce que c'est dangereux, il y a du monde qui tire partout, puis tu sais, bon, vous pourriez vous faire descendre. Ça fait que c'est un petit peu ça qu'il disait. Alors, lui, je vais lire un petit texte, là, qui parle de un petit peu de ça, l'Algérie, là, qu'est-ce qu'il a vu en Algérie. Il écrit à la supérieure du couvent où sont sa sœur, ses deux sœurs. Il dit, « J'ose vous dire cela, très honorée mère, parce que je veux vous demander les prières les plus ferventes pour le malheureux pays que j'habite à cette heure, l'Algérie. Un peu de bien s'y fait à l'ombre. » Donc, l'évêque était un saint homme, mais il y avait très peu de prêtres, donc son apostolat ne pouvait pas être très efficace. Un peu de bien s'y fait à l'ombre, en cachette et par de miraculeux efforts. Mais l'on ne pourrait dire combien ni avec quelle facilité le mal s'y commet. L'on n'a pas un rayon d'espoir qui ne soit aussitôt obscurci par des craintes navrantes, et ce sont des drapeaux chrétiens qui paraissent le plus devoir attirer la vengeance de Dieu. Donc, pour lui, ça a été vraiment un détonateur de ses prises de position futures que cette visite en Algérie, parce qu'il a vu qu'il ne pouvait pas, à ce moment-là, faire vraiment confiance au gouvernement. Parce que le gouvernement de l'époque, c'était une restauration monarchique, mais qui était très timide, puis qui laissait parler les anticléricaux, peut-être encore plus que les catholiques. Et puis, à l'époque, on disait, bon, ben c'est bien, on fait la conquête de l'Algérie, on va civiliser les Arabes, etc. Puis quand Veuillot arrive là-bas, ben il se rend compte que les soldats français sont encore pires que les Arabes. Alors, ça l'a pas mal... Et pourquoi ça? Parce que depuis 30 ans, il n'y avait plus d'école religieuse en France. Et à ce moment-là, comme je disais tout à l'heure, le détonateur de sa future action, c'est une action en faveur de l'école catholique, une école libre, parce qu'à l'époque, l'enseignement catholique était défendu dans les écoles, et puis les religieux, les religieuses ne pouvaient pas ouvrir d'école. Donc, il va lutter beaucoup pendant plusieurs années pour faire accepter des lois permettant aux catholiques d'ouvrir leurs propres écoles. Alors, il nous faut donc prier sans cesse pour que la France puisse être un jour à la hauteur des devoirs immenses qui lui sont donnés et qu'elle méconnaît entièrement. Alors, c'est un homme qui va avoir beaucoup le sens de la patrie, de la France fille aînée de l'Église, la France catholique, et puis il va lutter de toutes ses forces pour faire redevenir son pays vraiment catholique. Et justement, c'est ce qui va arriver lorsqu'il va retourner à Paris, il va à l'univers, il va lutter avec Montalembert, qui est un autre grand écrivain à l'époque, et puis d'autres catholiques, ils vont se réunir enfin pour une immense campagne en faveur de la liberté religieuse. Alors, il écrit beaucoup d'articles à cette époque-là, il écrit des lettres ouvertes au ministre de l'Instruction publique. Il fait faire des conférences à Lille et puis à Nancy. Et puis, à Nancy, c'est en Lorraine, je crois. Mais à l'époque, c'était pas en Allemagne ou... Non, en 1870, je pense que c'est devenu allemand. Ah, d'accord. Donc, à l'époque, c'était encore français. Et puis, va commencer à ce moment-là... va commencer à ce moment-là une campagne contre Louis Veuillot. Alors, ça, c'est pas long, ça fait juste 3 ans qu'il est revenu, puis tout de suite, la grosse campagne contre lui. Alors, on l'accuse d'être trop rigide, on l'accuse de manquer de charité envers ses adversaires, on l'accuse de dire les vérités trop clairement, tu sais, il voudrait qu'il passe un petit peu plus doucement là-dessus. Alors, c'est là que commence un petit peu un groupe de catholiques qu'on va appeler plus tard les catholiques libéraux. Bon. Alors, Louis Veuillot, dans un de ses livres, quelques années plus tard, L'illusion libérale, je pense que M. l'abbé Herbach vous en a cité une partie, va montrer qu'on ne peut pas être catholique et libéral en même temps, voyez-vous. Mais à l'époque, ça s'appelait comme ça. Les gens disaient « je suis catholique », mais enfin, je le dis pas trop fort, quoi, voyez-vous. Et il reprochait à Veuillot de semer la zizanie. Alors, il y avait des évêques un peu de son côté, il y avait d'autres évêques contre lui, puis ça sera un peu ça, finalement, le résumé de sa vie. Ça va être des luttes contre les erreurs doctrinales, mais malheureusement, ce qui va être une grande croix pour lui aussi, ça va être des luttes contre ses frères catholiques qui vont lutter eux autres aussi contre lui. Et puis, il écrit aussi à ce moment-là différents livres pour l'éducation de la jeunesse et puis pour l'éducation de l'agent féminine, disons, n'est-ce pas? Et puis pour les Français en Algérie aussi. Donc, Il écrit plusieurs volumes. Il quitte son emploi au ministère pour se consacrer définitivement au journalisme catholique. Donc, il a 30 ans à l'époque. Et puis, on décide de le payer. Bon, c'est sûr qu'il n'est peut-être pas payé énormément cher, mais de plus en plus, le journal prend de l'ampleur et de plus en plus, il y aura des abonnements. Donc, ils peuvent assurer la subsistance de Louis Veuillot. D'ailleurs, il va en avoir besoin parce que ses sœurs sortent du couvent et puis il décide de les prendre avec lui pour ne pas qu'elles subissent des mauvaises influences dans le monde. Ensuite, il y a son frère qui va se convertir. Ça va lui faire une grande joie, là. Et puis, qui vient le rejoindre à l'univers. Donc, c'est une affaire de famille, presque. Et à un moment donné, il y a une campagne, il a 31 ans, un abbé qu'on appelle l'abbé Combalot, qui va écrire un livre qui s'appelle « Le ver rongeur des sociétés modernes ». Bon, on voit que c'est un titre qui n'est pas très doux pour nos chers amis libéraux. Et effectivement, ça va faire du bruit. Ça, c'est contre le monopole universitaire, parce qu'à l'époque, en France, l'Université de Paris était donc anti-catholique, laïque, et puis voulait imposer à toutes les écoles des examens de fin d'année. Donc, autrement dit, en France, il n'y aurait pas pu avoir aucune personne qui ait aucune charge comme notaire, médecin, avocat ou quoi que ce soit sans obtenir les examens de cette université-là. Alors, examens qui étaient donc sans suivre les cours, qui étaient des cours voltairiens, etc., etc. Et il va, l'abbé Combalot va lutter contre ça. Et puis, l'université va réagir. Et puis, il va intenter un procès pour diffamation à l'abbé Combalot. Alors, qu'est-ce que Louis Veuillot va faire dans ce temps-là? Il va prendre position pour le prêtre catholique, et puis il va faire paraître une défense de l'abbé Combalot dans son journal. Et lui-même va être cité en procès, et puis il va être condamné à cette époque-là à la prison. Il va être condamné à un mois de prison. Pour avoir finalement soutenu le bon droit et la vérité. Et, bon, alors, je pense que je vais passer sur ce qu'il dit à cette époque-là, mais en tout cas, c'est quelque chose de... Il donne ses réactions, il écrit à ses amis, il reçoit beaucoup d'appui, et puis, il est en prison, mais c'est pour le bon Dieu, et puis, il dit que jamais ceux qui veulent ligoter la vérité, peu importe les moyens qu'ils vont prendre, peu importe les châtiments qu'ils vont user vis-à-vis des catholiques qui osent parler, eh bien, la vérité va toujours triompher, puis ça a toujours été son idée maîtresse. C'est que la vérité a un pouvoir de persuasion en elle-même et que toutes les théories n'arrivent pas à égaler. Alors, lui, il va toujours s'attacher à cette vérité. Ensuite de ça, les années passent un petit peu, il sort de prison, et puis il y a une crise à l'univers. C'est-à-dire que les catholiques libéraux vont réussir par des manœuvres détournées, donc sans en parler à Louis Veuillot, à imposer un comité de direction qui va être composé de plusieurs catholiques libéraux, dont Montalembert, qui à l'époque commence à être libéral un peu, et puis, qui était l'ami de Louis Veuillot, et puis ils arrivent, lui, il se rend au journal le matin, il ouvre la porte, et puis, bon, il voit 7-8 personnes assises dans son bureau. Qu'est-ce que vous faites là? On est le nouveau comité. Bon, OK. Comité de quoi? Ben, c'est nous qui prenons la direction du journal, et puis vous allez faire les articles qu'on vous dit, et puis pas trop fort, s'il vous plaît. On ne veut pas non plus avoir, faire de la peine à nos ennemis, n'est-ce pas? Alors, il va réagir très fortement. Et il va aller voir le financier de l'entreprise, qui est Eugène Taconnet, qui est un commerçant catholique, puis il va le convaincre de ne pas laisser cette chose-là se faire. Donc, évidemment, comme c'est le propriétaire du journal, les autres n'ont qu'à s'éclipser, mais ils vont avoir une victoire partielle en imposant un de ces hommes-là comme rédacteur en chef officiel. Mais c'est Louis Veuillot qui va rester quand même rédacteur en chef officieux. Donc, il n'y aura pas le titre, mais il va avoir la fonction. Et puis, à ce moment-là, il se marie, donc il a 32 ans, avec une jeune femme de 22 ans, Mathilde. Et puis, bon, au début, c'est venu un petit peu bizarrement, ce mariage-là, parce que, bon, il n'y avait pas le temps de se marier. Et puis... il voulait pas, tout le monde lui disait « Marie-toi, 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 patati patata ». Bon, lui, il disait « J'ai pas le temps, j'ai le journal à faire, j'ai mes livres à faire, qu'est-ce qui se passe et tout ». Bon, et puis il dit « Bon, écoutez, trouvez-moi-en une, et puis si elle a telle qualité, bon, d'accord, je verrai ». Bon, et puis en tout cas, il la trouve, c'est providentiel, en tout cas, j'irai pas raconter toutes les démarches qu'il y a eues, mais ils ont réussi à... C'est un père jésuite qui lui trouve sa future, et puis c'est une jeune fille qui est très catholique, et puis tout ça, évidemment, qui correspond tout aux critères de M. Veuillot. Et puis, ils se marient, et puis, ils ont des enfants, évidemment, et puis, ils continuent d'écrire. Bon, là, on arrive à un chapitre. OK, là, je vais la lire, par exemple, un petit peu, là, je ne suis pas sûr. Oui, bon, il y a la guerre, et puis 349, ouais, c'est ça, OK. Donc, pendant qu'il se marie, la révolution éclate. OK, ça tombe bien, bon. Alors, il se marie, la révolution éclate, c'est un petit peu les barricades partout dans Paris. Le bon peuple parisien, c'est un peuple qui aime beaucoup, n'est-ce pas, faire des démonstrations. Donc, ils démontrent. Alors, ils ne font pas juste démontrer, ils démontent aussi tout court. Alors, ils arrachent les pavés, ils arrachent les volets des fenêtres, ils se font des barricades, puis là, ils se tirent dessus. C'est le fun, ça dure 3 mois, puis après ça, tout le monde rentre chez eux parce qu'ils ont faim. Hein. Le pain n'arrive plus, il n'y a plus de farine qui arrive de l'extérieur, donc ils sont obligés d'arrêter. Pendant ce temps-là, évidemment, il y a beaucoup de bavardages qui se font, parce que dans toute révolution, tout le monde pense à la suite, l'après-révolution, qui est-ce qui va prendre le pouvoir? Ah, c'est formidable. Donc, tout le monde veut prendre le pouvoir. Et puis, ils font une assemblée constituante. Donc, tous ces gens-là se rassemblent, puis ils essayent de choisir quelqu'un. Alors, Veuillot, lui, à ce moment-là, rassemble ses amis, et puis dit, on va fonder un parti catholique, et puis on va influencer leurs décisions, on va essayer de rendre l'État un peu plus catholique qu'il ne l'est. Et puis, qu'est-ce qui arrive, c'est que le résultat un petit peu de toutes les différentes tractations des différents côtés, on élit président Louis-Napoléon, qui est le petit-fils du grand Napoléon Bonaparte, n'est-ce pas? Alors, il est élu. Bon, c'est bien. Et puis, il décide, au début, c'était un homme qui était pas mal contre l'anticléricalisme et puis contre la révolution. Il venait de sortir d'une révolution, donc... il a dit « Je vais apporter l'ordre et la paix ». Et à ce moment-là, il veut avoir un petit peu le soutien des catholiques. Donc, au début, Louis Veuillot va, dans son journal, être assez favorable. Il écrit plusieurs livres suite à la Révolution, là, « Les lendemains de la victoire »,« Le fond des cœurs », etc. Donc, parce qu'il démontre que le manque d'éducation religieuse a amené cette Révolution-là. Et puis, il faut dire, bon, j'en ai parlé un petit peu légèrement tout à l'heure, mais quand même, il y a eu plusieurs morts, tu sais, c'était quand même quelque chose d'assez horrible. Alors, il écrit sur ces sujets-là pour montrer justement qu'est-ce qu'il advient d'une société qui n'est pas catholique. Ces sujets-là. Bon, ici. Alors, ensuite de ça, les années passent. Il a 37 ans, il a déjà 3 enfants. Bon, inutile de vous dire que après son mariage, n'est-ce pas, il était très heureux d'avoir ses enfants, tout ça. Il a une bonne famille. Et puis, il a beaucoup de consolations humaines à cette époque-là. Donc, on a vu qu'au début, il y avait des incertitudes après sa conversion. Ensuite, il s'est lancé dans le travail éperdument. Il y a eu beaucoup de luttes à soutenir contre ses ennemis. Et tout ça, eh bien, l'avait rendu un petit peu pessimiste, un petit peu aigri. Et puis finalement, après la Révolution, son mariage, tout ça, il commence à s'installer un peu mieux. Et puis le journal a de plus en plus d'abonnés et il a vraiment une grande influence à cette époque-là. Une tellement grande influence que ses ennemis vont revenir à l'attaque encore plus à l'occasion du vote d'une loi qu'on appelle la loi Falloux, qui est une loi soi-disant pour la liberté de l'enseignement que Louis Veuillot a toujours défendue. Mais M. Falloux était un homme libéral. Donc, au lieu de vraiment obtenir, puis il aurait pu l'obtenir de Louis-Napoléon à l'époque, une loi vraiment favorisant les catholiques, eh bien, s'est contenté des miettes. Et puis, il aurait voulu que tout le parti catholique se range derrière lui. Alors, évidemment, l'univers et Louis Veuillot dénoncent avec vigueur la loi Falloux, mais malheureusement, il y a des évêques qui sont d'accord avec cette loi. Pas beaucoup, mais il y en a. Ça commence déjà le modernisme dans l'Église, les plus de prêtres que d'évêques modernistes, mais ça commence, le libéral. Et puis, il y a l'archevêque de Paris, Mgr Cibourg, à cette époque-là, alors qu'il se met à lancer des avertissements contre le journal. Alors, des avertissements quand même très sérieux, défendant à son clergé et aux fidèles de l'archidiocèse de Paris, donc le plus grand de France, de lire l'univers. Donc, vous rendez compte que ça a quand même un poids considérable. Et à ce moment-là, qu'est-ce que va faire Louis Veuillot? Il va aller voir le cardinal Gousset et puis un autre évêque, et puis ces deux-là vont aller voir le pape, qui est Pie IX à l'époque. Et puis le pape va réécrire à Mgr Cibourg, pas directement, parce qu'il est quand même très diplomate, il ne veut pas non plus menacer Mgr Cibourg, mais suffisamment avec tact et diplomatie pour qu'il retire ses avertissements. Mais ça ne dure pas longtemps, parce que deux mois après, il recommence, ça fait que, bon, ça ne sert pas à grand-chose. Et puis, Napoléon III... Comme je disais, à l'époque, c'était Louis-Napoléon, il avait été élu. Mais là, il trouve qu'être élu, c'est un petit peu, ça a des inconvénients parce qu'au bout d'un certain temps, il faut se faire réélire. Donc, évidemment, une réélection, c'est jamais assuré d'avance. Alors, lui, il prend ses précautions, il fait un coup d'État. Alors, il prend le pouvoir, puis il dit, ça y est, je reste là à vie. Puis, ceux qui ne sont pas d'accord, ben, disons qu'ils ont juste à venir me voir, puis j'ai tout ce qu'il faut comme baïonnette pour changer leur avis. Alors, il fait un coup d'État, et puis il dit, vous allez voir, ça va passer par là, puis moi, c'est la liberté de l'Église maintenant, puis je suis un champion, puis il fait de la répression anticléricale, donc ceux qui sont contre l'Église, ils les répriment, puis etc. Alors, au début, évidemment, Louis Veuillot, puis l'univers, disent, ben c'est un bon régime, OK, c'est pas la monarchie catholique, comme on la connaissait, mais c'est quand même un bon régime. Alors, au début, l'univers a la faveur du régime. On est en 1852, Louis Veuillot a 38 ans. L'année d'après éclate la grande querelle des classiques, donc avec l'abbé Gaume, qui va dire que le mal dans la société actuelle vient d'un manque de formation religieuse et surtout que même dans les collèges catholiques, on enseigne plus les auteurs classiques païens, latins et grecs, que les pères de l'Église. Alors, c'est très bon. Moi, je trouve que ce qu'il dit, ça a de l'allure, tu sais. Mais c'est pas ce que pensait Mgr Dupanloup, évêque d'Orléans. Alors, lui, il est scandalisé, puis c'est épouvantable, puis lui, c'est un ancien professeur. Alors, il dit, je sais de quoi je parle, puis les classiques, c'est très bon, justement. Ça fait des bons libéraux comme lui. Il est contre Mgr Gaume, et puis Louis Veuillot, devinez de quel côté qu'il se place. Il se place pour Mgr Gaume. Alors, évidemment, ça fait des flamèches comme ça. Et puis, Mgr Dupanloup, caractéristique des libéraux. Vous savez, les libéraux, c'est comme ça. Tout le monde est gentil, tout le monde est beau, faut pas parler contre personne, et puis on va être en paix comme ça. Bon. Mais attention, attention, si vous n'êtes pas d'accord avec lui, si vous dites, oui, mais je pense que vous vous trompez. Ah ben là, par exemple, tout ce qu'il nous demande de faire à nous, catholiques, lui, il ne le fait pas. Réaction de Mgr Dupanloup, quand Louis Veuillot émet avec beaucoup de politesse une petite objection, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il lance l'interdit sur le journal et donc c'est comme une excommunication qu'il lance, une interdiction formelle à tous les gens de son diocèse de lire sous peine de péché mortel le journal L'Univers. Et puis, Mgr Dupanloup ne fait pas que ça. Il va voir, il fait une tournée en France et puis il essaye de regrouper le plus d'évêques possible derrière lui contre L'Univers. Et puis, il va composer 4 articles, les articles un peu une profession de foi libérale, finalement. Et puis, il va demander aux autres évêques de signer ça. Et Montalembert, malheureusement, va être un petit peu de son côté aussi à Dupanloup. Donc, il va rompre encore une fois, parce que Montalembert rompt avec Louis Veuillot. C'est son grand ami, mais à tous les 6 mois, il rompt. Puis après ça, il revient avec. Puis en tout cas, bref, c'est toujours comme ça. Et puis, il rompt encore une fois. C'est la 3e fois qu'il rompt avec Louis Veuillot. Et puis, c'est un petit peu enfantin, là, presque, ces ruptures-là, là. Et Louis Veuillot va recourir au pape. Alors, le pape, qu'est-ce qu'il va faire? Encore une fois, très diplomatiquement, il va passer par son secrétaire d'État. Le secrétaire d'État va écrire une lettre d'approbation à un autre évêque qui discute, qui est contre les hypothèses de M. Dupanloup, Mgr Dupanloup. Donc, Mgr Dupanloup comprend à ce moment-là et est obligé de lever l'interdit. Parce que, avant de lancer une menace vraiment très claire, le Vatican, très diplomate à cette époque-là, passait toujours par des chemins comme ça, puis il attendait que les fautifs se rendent compte que, bon, il était temps de se remettre sur la bonne voie, parce que sinon, le prochain coup, ça allait faire mal. Et là commencent quelques grandes épreuves pour Louis Veuillot, parce que en l'espace de 3 ans, là, voyez-vous, il a, j'ai oublié de le dire, là, mais il a 5 enfants, et puis il en perd une, sont toutes des filles, hein, premièrement. Il aurait bien voulu avoir des garçons, mais le bon Dieu lui a donné des filles, et puis, bon, il était content quand même, c'est entendu, là. Bon, alors, une de ses filles meurt, c'est la première croix qu'il reçoit dans sa personnalité de père de famille. Il aimait beaucoup, il aimait énormément, c'était quelqu'un de très, très attaché à sa famille. C'est un homme qui paraissait très dur à ses ennemis. Il disait, vous n'avez pas de cœur, vous êtes un rocher. Mais lorsqu'on lit les lettres qu'il écrivait à ses amis, lorsqu'on lit toutes ses réflexions sur les événements qui lui arrivent, on s'aperçoit que le catholicisme n'a pas éteint, au contraire, en lui, n'est-ce pas, cette charité qu'il avait même pour ses ennemis et puis cet amour pour ses amis. Alors, c'est sa petite fille qui meurt. Et puis, quelque chose d'admirable, c'est que au moment où sa petite fille meurt, il y a la fille d'une de ses amies qui meurt aussi. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va écrire à cette femme-là et il va la consoler. Il la console, je ne lirai pas tout, là. Mais il dit, « Dieu soit loué pour tout. Il permet que je n'ignore pas pourquoi il a employé envers ma petite Thérèse cette miséricorde et envers moi cette rigueur. » Parce que lui, il avait toujours, n'est-ce pas, la vision catholique. Sa petite Thérèse avait 1 an, elle était baptisée, donc elle est allée direct au ciel. Alors, c'est pour ça qu'il dit que lui, il a reçu le châtiment en se faisant enlever son enfant, mais elle a reçu déjà une miséricorde. « J'avais besoin d'un avertissement, je l'ai reçu et j'espère en profiter. Je me familiarisais trop avec le regard de Dieu. » Alors, c'est bon, il est humble, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, je n'essaierai pas de l'expliquer, là. « Il est bon que je sente encore sur moi les yeux innocents de cet ange. Ainsi, le ciel s'enrichit en notre faveur. C'est vraiment une vision, une vraie vision catholique. À mesure que ma douleur devient moins vive, elle devient plus profonde. Mon cœur est plus atteint qu'au moment où, accourant en toute hâte auprès de ma fille malade, je l'ai trouvée morte dans son berceau, n'ayant plus du tout le visage que je lui connaissais et que j'aimais tant. Cependant, je ne voudrais pas être délivré de ma douleur. Je prie Dieu, au contraire, de me la conserver. C'est extraordinaire. Il prie Dieu de lui conserver sa douleur. C'est un poids salutaire et une flamme purifiante. Je me sens meilleur et moins en péril que dans la joie. La joie nous endort sur le bord du précipice d'un sommeil plein de mauvais rêves. La douleur nous fait penser constamment à Dieu. Bon, j'ai voulu vous le faire parler lui-même. Ça, vous voyez que c'était pas juste un catholique de doctrine, puis que c'était pas juste quand il écrivait des articles. C'était dans sa vie profonde, c'était dans sa chair elle-même. Et on voit ensuite que il y a une fille qui vient remplacer la petite disparue 2 mois après, et puis ensuite, 1 mois après, c'est sa femme qui décède. Alors là aussi, c'est un grand coup. Les accents sont à peu près les mêmes qu'on a vu, évidemment. C'est très, très dur pour lui. Il reçoit quand même beaucoup de consolation de ses amis, mais il dit qu'il s'en remettra pas, mais qu'elle est morte comme une sainte, et c'est ça qui l'encourage beaucoup. Et ensuite, la bataille continue tout le temps contre lui. Il a 40 ans, il fait un voyage à Rome, et il va voir Pie IX, et puis Pie IX l'encourage à ce moment-là beaucoup. Il a toujours reçu un grand soutien de Pie IX. Parce qu'il faut dire que Louis Veuillot, ses articles sont des articles de fond, ce sont des articles de doctrine. Il a approfondi énormément toutes les questions de son époque, entre autres le libéralisme. Il a défini les causes du libéralisme. Il a fait progresser la vérité catholique, la vraie la vérité à cette époque-là. Donc, c'est pour ça que Léon XIII l'appellera plus tard le père laïc de l'Église. C'est parce que par son travail, il faisait progresser énormément la vérité. Il a eu un impact énorme, énorme. Il avait quand même 100 000 abonnés à peine 10 ans après le début du journal, et 100 000 abonnés à l'époque, même aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez considérable. Donc, il continue maintenant qu'il a l'approbation du pape. Évidemment, il est encore plus fort contre le libéralisme. Et c'est ce qui arrive surtout à l'époque, c'est la crise du libéralisme qui fait jour là, suite à ce que je vous disais, l'enseignement. Ça s'est manifesté petit à petit, et puis au fil des années, les groupes se sont vraiment séparés, démarqués. Et on assistait vraiment alors à l'époque aux naissances du libéralisme. Et puis du libéralisme en lui-même, mais non pas sur tel ou tel point ou telle question. Là, c'était vraiment le libéralisme comme système qui était prôné ou qui commençait à être prôné à l'époque. Et Mgr Cibourg, encore une fois, l'archevêque de Paris, condamne l'univers. Veuillot va voir le pape. Le pape intervient. Mgr Cibourg lève la condamnation. Et à ce moment-là, là, c'est facile quand on le parle comme ça, mais ça avait un impact énorme à l'époque. Et puis, c'était très dur pour lui d'être attaqué par la hiérarchie. Il aimait la hiérarchie. Il était toujours soumis, mais il ne pouvait pas l'empêcher de dire la vérité. Donc, il restait très respectueux, mais il disait toujours la vérité. Alors, c'est ça que les autres n'aimaient pas. Il a perdu énormément, énormément d'amis à cette époque-là, des amis qu'il connaissait depuis plusieurs années, mais qui n'ont pas voulu le suivre sur le chemin, n'est-ce pas, de cet catholicisme vraiment droit et, on peut le dire, intransigeant. Il ne transigeait pas sur les principes, et puis c'est une qualité, c'est pour dire intransigeant. Et à ce moment-là, je vous avais dit tout à l'heure que Napoléon III était plutôt en faveur
des catholiques parce qu'il voulait avoir quand même leur soutien moral, mais maintenant il va changer sa veste de côté parce que ça fait 3-4 ans qu'il est au pouvoir et puis il se sent beaucoup plus affermi et à ce moment-là, il va dire aux catholiques, faites du balai et puis parlez moins fort. À ce moment-là, en 1855, donc il a 42 ans, et c'est seulement 3 ans après la mort de sa première fille Thérèse, puis la mort de sa femme Mathilde, il perd 3 autres de ses enfants dans la même année. Il perd sa plus vieille, qui avait à l'époque 7 ans, il perd sa plus jeune, qui a 2 ans, et puis Gertrude, qui a à peu près 3 ou 4 ans. Il est père dans l'espace à peu près de 3 mois, parce qu'il y a eu une épidémie à l'époque qui affectait beaucoup les enfants. Puis d'ailleurs, même sa femme était morte des suites un peu de cette épidémie-là, qui était pas endémique encore, mais disons qui se propageait petit à petit dans la France. Puis il a perdu ses 3 enfants. Ça a été un coup... Mais c'est là qu'on voit que c'est comme ça que le bon Dieu fonctionne. Toujours coupe. Coupe, coupe, comme la vigne. Si tu veux que la vigne pousse, hein, qu'elle donne des beaux fruits, c'est ce qu'on voyait en Suisse, là, au séminaire, quand on nous faisait tailler la vigne, on prenait un coupe-coupe, mais là, ils nous disaient, on va tailler la vigne, ça prenait des volontaires, mais il n'y avait pas beaucoup de volontaires. Disons que c'est assez épouvantable de tailler la vigne, c'est plus dur que de faire les vendanges, là. Bon, donc, c'est comme ça que le bon Dieu fait. Faut que tu coupes les branches qui sont un petit peu trop déjà grosses, qui ont déjà donné un peu de fruits, mais qui servent à rien. Alors, tu les coupes, puis c'est des jeunes branches qui vont pousser, et puis, à ce moment-là, qui vont porter du fruit encore plus pur, encore plus savoureux. Donc, c'est le principe. Et là, vraiment, ces 3 filles, ça a été un coup très difficile, mais qu'il a quand même... toujours pris en soumission totale avec la volonté de Dieu. Et puis, là commencent les pamphlets diffamatoires, donc on l'attaque dans sa vie privée, on le traite même de libéral. Bon, c'est presque incroyable, mais il y a quelqu'un qui réussit à prendre tous les articles de Veuillot, qui découpe un petit peu toutes les phrases, puis qui émet comme ça, puis qui dit « Regardez, Veuillot est un libéral. » Bon. Alors, disons que, et puis ce livre-là s'en va à Rome, etc. Donc, ça cause quand même un certain remous. Et le titre de ce livre-là, c'est « L'univers jugé par lui-même ». Bon, autrement dit, on dit, voyez-vous, l'univers est contre le libéralisme, pourtant, il est libéral. Voici qu'est-ce qu'il dit, voici qu'est-ce qu'il dit. Bon, alors évidemment, tous ceux qui lisent ça, qui n'ont peut-être pas eu toute la formation, sont troublés. Et puis même la hiérarchie commence à voir que ce livre-là a beaucoup d'influence. Mais on ne connaît pas l'auteur. L'auteur reste anonyme. On pense que c'est plusieurs personnes qui ont écrit ça. Alors Louis Veuillot intente un procès. Alors il y a plusieurs évêques qui sont d'accord avec lui, puis qui l'encouragent à foncer. Les autres évêques, ceux qui sont contre Veuillot, ils n'osent pas élever la voix à ce moment-là quand même, parce qu'ils ont peur que Veuillot leur réponde. Et puis quand Veuillot vous répondait en général, ça faisait très mal. Vous aviez plus envie de parler après ça, ça vous coupait vraiment toute votre inspiration. Donc, il fait un procès. Quand le procès arrive comme ça, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, c'est dur de faire un procès contre personne, parce qu'on ne connaissait pas les auteurs. Mais imaginez-vous qu'il y a un prêtre qui se présente et qui dit « Je suis l'auteur de ce livre, j'en prends toute la responsabilité. » Et c'est là que vous voyez que même on est en 1856, donc on est 51 ans avant la condamnation du modernisme par Saint-Pie-X, et puis déjà, il y a des prêtres qui osent n'est-ce pas, publiquement prendre position pour le libéralisme. Donc, c'est l'abbé Cognat. Bon, Cognat, en tout cas. Disons que je ne sais pas s'il a cogné bien fort, mais... Et puis, il y a un autre abbé, l'abbé Sisson. Bon, ils ont toutes sortes de noms, eux autres. C'est la France. Bon, c'est pas la France, mais disons que... Lui, il est le directeur de l'Ami de la religion. Ça fait bien, c'est un beau nom de journal. L'Ami de la religion, puis c'est un libéral, puis il tape contre Louis Veuillot, puis il tape contre le pape, puis il tape contre tout le monde, en tout cas. C'est l'Ami de la religion. Bon. L'abbé Sisson, puis l'abbé Cognard. C'est un beau duo. Et puis, il s'élève contre Louis Veuillot. Alors là, Louis Veuillot ne sait pas trop quoi faire parce que il dit, non, je veux pas attaquer le clergé en procès, ce serait scandaleux. Je veux pas faire un procès avec des prêtres quand même. Moi, je défends la religion et tout. Et puis, vis-à-vis des faibles, ça pourrait être scandaleux. Donc, il demande conseil auprès de ses amis de l'époque. Puis, il faut dire, il était ami avec des gens quand même de grand calibre. Il y avait Monseigneur Pie, il y avait Don Guéranger, bon, c'était quand même pas n'importe qui. Et ils lui disent, foncez, on vous soutient. Bon. Alors, il fonce, il se choisit un bon avocat, et puis l'avocat réussit vraiment là, à démontrer que ce livre-là est un livre complètement diffamatoire, puis il démontre presque où ont été coupés les articles. Bon. Et puis, à ce moment-là, il arrive un événement très grave, c'est que Monseigneur Cibourg, qui était le grand rival, pas le rival, parce qu'il n'y avait rien à opposer à Veuillot, mais disons, le grand adversaire de Veuillot, Monseigneur Cibourg, qui l'a condamné tant et tant de fois, qui a lancé des avertissements contre Louis Veuillot, Monseigneur Cibourg, ce libéral avant la lettre, Monseigneur Cibourg est assassiné par un prêtre apostat au pied de l'autel quand il célébrait la messe dans une église à Paris. Alors, à cette époque-là, en 1856, il est assassiné. Donc, inutile de vous dire, je ne sais pas s'il a eu le temps de se repentir, on l'espère. Quand Louis Veuillot voit ça, eh bien, c'est quand même un deuil déjà dans l'église, cette chose-là, qu'un prêtre apostat, premièrement, donc déjà c'est quelque chose de très grave, mais en plus, qui devient assassin, puis assassin d'un évêque, puis d'un évêque libéral, donc vous voyez, ça commence à être assez important comme problème. Bien, Louis Veuillot va voir l'abbé, les deux abbés, là, Sisson puis Cognat, et puis il prend un arrangement avec eux, il dit, bon, ben rééditez pas votre livre, et puis moi, je mets fin aux poursuites pour éviter un plus grand mal, finalement, spirituel, si on commence à faire des procès alors que l'archevêque vient d'être assassiné, bon... Disons que c'est pas très, très bon. Alors, c'est un autre épisode de sa vie. Et puis, il continue son travail, mais là maintenant, bon, Monseigneur Cibourg est mort. On va dire, bon, c'est correct, il est libéré, entre guillemets, là. Mais non, Napoléon III, n'est-ce pas, commence à faire des siennes et puis à se prendre un petit peu, pas autant pour le pape que Napoléon Ier, là, mais disons qu'à se prendre un petit peu pour... un aigle, tu sais, qui plane au-dessus de l'Europe, là, et puis qui est plus fort que tout le monde. Donc, il commence à faire des petites guerres un petit peu partout. Il attaque l'Autriche, puis contre le Piémont. Contre l'Autriche. Puis l'Autriche, à ce moment-là, soutenait les États pontificaux. Bon. Alors, en attaquant l'Autriche, on attaquait à ce moment-là aussi un petit peu... le défenseur officiel du Saint-Siège qui restait à cette époque-là, parce qu'autrefois, avant la Révolution française, c'était la France, mais depuis l'apostasie de la France, c'était l'Autriche, n'est-ce pas? Donc, excusez-moi là si je parle comme ça, mais enfin, c'est la vérité. Donc, non, pas à ce point-là quand même. Là. Mais, bon, donc, Napoléon III attaque. Et puis, en plus de ça, c'est que non seulement il attaque l'Autriche, mais il se met avec le Piémont. Puis le Piémont, c'était un État, à ce moment-là, qui refusait de reconnaître la souveraineté du pape sur les États pontificaux. Alors, c'était une alliance, finalement, contre, avec un ennemi du pape, et puis une alliance qui dégénérait dans une guerre contre l'allié du pape. Alors, à ce moment-là, Louis Veuillot entre en guerre lui aussi, une guerre dans une guerre quand même qui fait du bruit. Et puis, là, Napoléon III, à ce moment-là, bien, évidemment, fait un petit peu comme Monseigneur Cibourg, bien, qu'est-ce qu'il fait? Bien, il jette des avertissements, des interdictions contre le journal, et puis, il utilise toutes les, finalement, les tactiques que les libéraux utilisent quand ça ne fait pas leur affaire. Alors, quand vous ne parlez pas comme eux, ils vous écrasent, mais eux, ils refusent que vous disiez quoi que ce soit. T'sais, mais eux, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Bon, en tout cas, ça, c'est ce qu'on appelle le libéralisme. Le libéralisme, est sectaire dans son essence. Et Napoléon III, finalement, va porter un grand geste suite à un article publié par Louis Veuillot, un article dans lequel il reproduisait une encyclique de Pie IX, parce que Pie IX s'est élevé contre les agissements de la France et du Piémont. Et puis, parce que Napoléon III, au début, on se le rappelle, était soi-disant favorable au pape, et puis Pie IX, quand il voit le revirement de Napoléon III, écrit une encyclique dont les deux premiers mots servent de titre, et puis c'est un titre très, disons, révélateur, « Nullis certis », il n'y a plus rien de certain. Donc, autrement dit, on ne peut pas se fier aux politiciens. Et l'univers le publie malgré l'interdiction de Napoléon III, et Napoléon III, en 1860, Louis Veuillot a 47 ans, Napoléon III supprime l'univers. Donc, il interdit au journal de paraître, il dissout l'association, il ferme les bureaux, et puis Louis Veuillot n'a plus le droit d'écrire dans aucun autre journal. Donc, c'est comme ça que les libéraux acceptent le dialogue, n'est-ce pas? C'est un beau dialogue. Et Pie IX, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Bien, Pie IX commence à vouloir faire une combinazione. Les Italiens sont très forts sur la combinaison. Donc, des petites combines, et puis il dit à Louis Veuillot, venez-vous-en, on va refaire l'univers, mais au lieu de le refaire en France, on va le refaire en Belgique, on va le refaire en Suisse, on va le refaire en Angleterre, on va faire l'univers un petit peu partout, puis on va le rentrer clandestinement en France. C'était un bon projet, mais un projet qui n'était peut-être pas très réaliste, parce que Napoléon III, quand même, il savait très bien que Pie IX n'allait pas se laisser faire comme ça, puis il fait suivre Louis Veuillot par des espions, par la police secrète. Et Louis Veuillot, donc, c'est ça, était allé à Rome après la suppression du journal pour savoir du pape comment faire. Là, le pape lui fait part de son projet, mais Louis Veuillot est suivi, puis juste avant d'arriver à la frontière, la police l'arrête, perquisitionne, et puis saisit ses papiers, et puis donc tout ce qu'il y avait qui lui permettait finalement de ses papiers, c'était pas juste, c'était son passeport à l'époque, ça marchait un petit peu différemment d'aujourd'hui, mais disons que les papiers importants qu'il y avait sur lui qui lui permettaient un petit peu de faire face à la musique quotidienne, de vivre, donc que ce soit des lettres de créance ou toutes choses comme ça, du journal, de l'ex-journal Univers. Alors, à ce moment-là, ils sont saisis, et puis Louis Veuillot y est arrêté. On décide de lui faire un procès. Alors, Pie IX décide de renoncer à son projet de refaire l'univers ailleurs, et puis Napoléon III, finalement, voyant le geste de Pie IX, décide de relâcher Louis Veuillot. Néanmoins, il va conserver les papiers pendant un an. Un petit oubli. Et Louis Veuillot, à ce moment-là, essaye il écrit des brochures. Il n'y a pas d'autre chose à faire, il ne peut plus écrire d'articles. Alors, il écrit des brochures. Ça, on ne lui a pas encore enlevé le droit d'écrire des brochures. Donc, il s'y donne à cœur joie. Il fait une brochure qui s'appelle « Le pape et la diplomatie », qui a rapport aux événements, justement. « Waterloo ». Et puis, il réédite aussi « Parfum de Rome », qui est un grand succès, alors qui est une apologie, finalement, de la Rome chrétienne. Il est souvent appelé à Rome, et puis par le pape, qui essaye de le consoler un peu, et puis il est l'objet de beaucoup, beaucoup d'attention. Il reçoit des grandes audiences, il est encouragé par le pape, les cardinaux viennent le voir, et puis vraiment, il a une grande influence sur son époque à ce moment-là. Et puis, il a 49 ans déjà à cette époque-là. Mais commence un peu une dépression. Parce qu'il travaille beaucoup, même si, disons, il ne peut plus écrire dans le journal, mais il travaille beaucoup. Il écrit des livres, comme on a dit, et puis des brochures. Et à ce moment-là, sa santé commence à fléchir. Il a 49 ans, mais il a brûlé la chandelle par les deux bouts. Ça a été un homme qui a voulu tellement rattraper le temps perdu que finalement, c'est ça, il s'est usé à la tâche, puis ses yeux lui causent énormément de problèmes. Alors, pour un écrivain, surtout à l'époque, les yeux, c'est quand même assez important, là, tu sais. Ça fait que il a des graves problèmes. Des fois, il ne peut plus écrire du tout. Il doit aller se reposer, et puis il va se reposer chez des amis. Et puis là, à ce moment-là, la perte du journal qu'il y a eu, donc la suppression du journal, ses quatre meilleurs amis qui sont morts, ses enfants qui sont morts plus tôt, sa sœur qui vient de mourir, ensuite des attaques encore contre lui. Entre autres choses, il avait une très bonne amie. Bon, il y avait beaucoup de bonnes amies, c'était des amitiés très spirituelles. Entre autres, la marquise de Champagné. Bon, alors il y avait beaucoup d'amis dans la noblesse. Et puis, qu'est-ce qui arrive à un moment donné? Ben, il y a quelqu'un qui fait paraître le bruit, qui dit, ben, Louis Veuillot va se marier avec elle, avec la marquise de Champagné. Mais il fait paraître ça un petit peu dans tout leur milieu, ce qui fait que finalement, la marquise pense que c'est vrai que Louis Veuillot a dit ça aux gens, et puis elle décide de rompre toute relation avec Louis Veuillot. Elle est offensée dans son orgueil de marquise, et puis elle décide de rompre toute relation avec Louis Veuillot. Mais Louis Veuillot, lui, pour lui, c'est un coup parce que c'était pour lui une bonne amie, donc, au point de vue spirituel, puis il pensait pas qu'elle allait croire à ce que lui disait à ces gens-là qui prêtaient à Louis Veuillot de telles propositions. Mais elle les a crues, et puis, malheureusement, donc, ça a été un autre coup, et à ce moment-là, Louis Veuillot commence à être un petit peu fatigué. Qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là à un de ces personnes qui lui écrit à cette époque-là? C'est un monsieur qui lutte pour la papauté. Il dit, voyez, imaginez-vous, il est sur le bord de la dépression, il y a des coups qu'il reçoit de partout, c'est comme un boxeur qui est sur le point d'être KO. Et puis il dit à ce monsieur, continuez ces utiles et courageux travaux, bravez la crainte, l'amende et la prison. Puis, bon, il parle à lui, mais vous allez voir ce que Louis Veuillot lui-même, à ce moment-là, pense. « S'il y a autour de vous quelques hommes comme vous, courageux, vous ferez plus qu'une armée, tout vous réussira et vos défaites seront des victoires. » Parce qu'il s'adresse à un catholique qui parle beaucoup de la vérité, qui fait un petit peu comme lui, mais en Italie. S'il m'est permis de vous faire une recommandation, c'est de vous tenir toujours dans le vrai, à tout risque, même au risque de l'impopularité. Puis vous savez qu'il a connu ce que c'était. Dans ce temps de révolte ouverte ou de trahison secrète contre toutes les vérités, nous devons avoir le courage de les affirmer toutes. N'en relâchons rien, n'en abandonnons, n'en négligeons aucune, en vue de nous faire des partisans. Bon. Donc, les libéraux, c'est un petit peu ça qu'ils voulaient. C'était taire les vérités de la foi pour pouvoir avoir plus de monde dans leur groupement. Donc, ça a commencé au point de vue pratique. Au début, ils n'étaient pas libéraux doctrinal, ils étaient libéraux au point de vue pratique. Et puis, Louis Veuillot voit le danger, justement, d'en venir à un libéralisme doctrinal. Alors, il dit, « N'en relâchons rien, n'en abandonnons, n'en négligeons aucune en vue de nous faire des partisans. Voilà, je crois, ce que Dieu veut de nous. Il fera triompher ensuite les vérités que nous aurons défendues et que nous ne pouvons efficacement défendre qu'en les confessant et en les honorant à haute voix. » Dans les domaines des concessions, il n'y a plus de limite. On lui dit, quand on commence à concéder, on n'arrête plus. C'est une pente. Et puis, il dit, on n'arrivera jamais à satisfaire des adversaires de mauvaise foi. Donc, c'était un homme très éclairé sur le danger du siècle et le danger des concessions de l'époque. Alors, c'est ça. Autrement dit, là, ensuite, dans une autre lettre, il explique un petit peu les raisons de sa fatigue et de sa dépression, mais il reste toujours, il offre ça comme une croix. Mais qu'est-ce que vous voulez? Quand le physique n'est plus là, quand même que vous diriez, j'accepte tout, vous êtes malade pareil, tu sais, bon. Alors, il explique pourquoi il est dépressif, mais il n'en veut pas au bon Dieu. Au contraire, il accepte tout. Et puis, qu'est-ce qui va le faire remonter dans l'arène? Eh bien, c'est les encouragements de ses amis, et puis ce sont les attaques de ses ennemis. Donc, il va écrire beaucoup à cette époque-là. Il va répondre aux accusations. Il va faire, entre autres, une œuvre maîtresse, qui est la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, il y a M. Renan, qui a écrit, lui aussi, une vie de Jésus-Christ. Mais Renan, je pense qu'on vous en a parlé tout à l'heure, n'est-ce pas, était du côté opposé à M. Veuillot. Alors, sa vie était une vie naturaliste, tandis que Louis Veuillot va combattre les résultats de la vie de Renan en écrivant une vie de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, là aussi, va lui coûter beaucoup de travail. Mais il va être honoré par des encouragements écrits de Pinet. Là, il a 52 ans à cette époque-là. Qu'est-ce qui va se passer par la suite, dans les années qui viennent? Il va toujours continuer son combat. Il va écrire encore une dizaine de livres apologétiques, beaucoup d'articles. Et puis, en 1867, Napoléon va réautoriser l'ouverture et la publication de l'Univers. Donc, Veuillot va retravailler d'arrache-pied. Et puis, il va continuer, il va reprendre ses articles, et là, il va écrire un peu moins de livres, il a moins le temps. Donc, et puis en 1868, il a 55 ans, c'est la préparation du Concile Vatican I, qui aurait dû rester un, là, il n'aurait pas dû en avoir un deuxième, en tout cas pas celui qu'on a eu. Mais Vatican I, c'était bon, c'était un bon concile. Et puis Louis Veuillot fait œuvre à ce moment-là de commentateur presque officiel du Saint-Siège. Il va même commenter la bulle qui appelle les évêques au concile. Et puis Pie IX va l'encourager, va l'approuver. Bon. Imaginez qu'il y a un vieux personnage dont on a parlé tout à l'heure qui revient. Qui sait? C'est un monseigneur. Monseigneur Dupanloup. Devinez, bon, là, c'est la grande question de l'infaillibilité pontificale. Alors, le pape, n'est-ce pas, c'est les travaux du concile, c'est très houleux, il y a les libéraux, il y a les catholiques, ça se dispute, c'est très, très vif, on s'arrache les cheveux des deux côtés, et puis, Veuillot, quand même, réussit à garder son calme, là, mais c'est dur. Et Monseigneur Dupanloup réapparaît. De quel côté est-ce que Monseigneur Dupanloup va se ranger? Surprise! Non, c'est une farce. Il reste libéral, puis il se range contre l'infaillibilité du pape. Donc, oh oui, on lutte, puis là, hein, Monseigneur Dupanloup, c'est épouvantable. Là, il traite quasiment Louis Veuillot de fou. Tu sais, ça n'a plus d'allure. Il dépasse toute mesure. Et puis, mais Louis Veuillot, bon, il s'en fait plus, il commence à le connaître, puis il sait que de toute façon, ça ne sert à rien. Ça fait que, il y a toujours des polémiques. Ben, même à un moment donné, qu'est-ce qui arrive? Bon, c'est Rome, hein, c'est très grand. Rome, il y a plusieurs églises, qu'est-ce que vous voulez? Un hasard est un hasard. On ne peut pas décider à l'avance qui on va voir, qui on ne va pas voir, et tout à coup, pouf! Comme ça, Louis Veuillot arrive pour prier devant la chasse de je ne sais plus quel saint dans je ne sais plus quelle basilique. Et puis, il y a quelqu'un à côté de lui, bon, qui prie lui aussi. Il se retourne, il voit que c'est un évêque. Bon, ben c'est bien, il y a encore des évêques qui prient. Bon, et puis, il se retourne, c'est Monseigneur Dupanloup. Enfin, là, les bras lui tombent, il n'en revenait pas. Il dit, Monseigneur Dupanloup qui prie, en même temps que moi, c'est le même bain à part de ça, il dit, ça n'a pas d'allure. Puis ils sont même pas frappés, hein, je veux dire. Ça montre comment est-ce qu'il était saint, hein, pas Dupanloup, Veillot. Parce que Dupanloup, il aurait pas pu, tu sais. Disons, il n'y avait pas la stature. Ça fait que... Donc, en tout cas, c'est comme ça qu'il dit, un hasard, hein, est un hasard, je veux dire. Il aurait voulu qu'il n'aurait pas pu le faire. Et puis, c'est la guerre. Encore une guerre, encore la France, qu'est-ce que vous voulez. Si vous étudiez l'histoire de France un jour, vous verrez que c'est une histoire de poudre, de canon. Tout ce que vous voulez, des lances-roches, des frondes, du poison, en tout cas, bon, c'est l'histoire de France. Il y a des bons côtés quand même. Il y a eu des grands hommes en France, là. Je ne voudrais pas me faire des ennemis cet après-midi, là, mais bon. Alors, c'est encore une guerre contre les Allemands. Bon. Alors, les Allemands, n'est-ce pas, Hartung, puis tout ça, bon, ils décident d'envahir la France, et puis ils disent, bon, ben là, vous avez une petite province, là, c'est pas grande, mais quand même, on l'aime bien, c'est l'Alsace puis la Lorraine. On parlait tantôt de Nancy, n'est-ce pas? Et puis Strasbourg, n'est-ce pas, qui fait partie, n'est-ce pas, de notre grande Allemagne. Bon, alors, ils décident de l'envahir. Bim, bim, il s'en va. Et puis, Veuillot, c'est encore le concile. Qu'est-ce qui se passe? Bien, on interrompt le concile à ce moment-là. Parce que là, les évêques, il faut qu'ils retournent chez eux. Il faut qu'ils organisent le clergé, parce que c'est la guerre. Et puis, bon, qu'est-ce qu'ils font? Bon, Louis Veuillot envoie les deux filles qui lui restent, puis sa sœur qui s'est proposée d'être leur mère adoptive. Et au Mans, pendant que son frère envoie sa famille en Bretagne, l'univers déménage à Nantes et puis à Bordeaux. Les députés sont à Bordeaux, eux autres aussi. Bon, tout le monde s'en va de Paris. Inutile de vous dire que hein, les rats quittent le navire, je veux dire. Puis même les bons aussi, des fois. Il faut pas être plus fou qu'un autre. Hein. Ça fait que tout le monde s'en va de Paris parce que ça commence à chauffer. Les Allemands sont là, puis c'est le siège, etc. Bon, mais Veuillot reste à Paris avec son frère et puis un ou deux collaborateurs. Et puis, il regarde le déroulement des combats. Il écrit des articles, il réussit à les faire passer au travers des lignes ennemies et à les faire arriver jusqu'à Bordeaux. Puis là, à Bordeaux, ben, ses confrères publient l'univers avec toutes les nouvelles de Paris. Donc, vous vous imaginez, c'est une ville assiégée, les Allemands sont d'un côté, et puis là, Napoléon III, à ce moment-là, évidemment, parlons pas de son crédit, il n'y en a plus du tout, les gens ne veulent plus rien savoir, il n'a pas été capable de se défendre. Alors, on est en 1871 à ce moment-là. Veuillot a 58 ans. Ben pour lui, il n'y a rien là. C'est pas la retraite, hein. Il va pas. Bon, c'est pas la retraite. Lui, il commence sa vie quasiment. Bon. Mais inquiétez-vous pas, là, j'en ai pas pour longtemps. Mais donc c'est ça. Alors, en plus de la guerre, les Allemands sont autour de la ville. Les Français, qu'est-ce qu'ils font? Deviner une révolution. Une insurrection. Bon. Parce qu'il y en a qui veulent céder. Il y en a qui disent, ben Napoléon III n'est plus assez fort. On va le renverser. On va prendre le pouvoir. Les Allemands sont autour de la ville. Je veux dire, défends ta ville en premier, puis après ça, tu prendras le pouvoir. Tu sais, c'est pas de même, eux autres. Ça leur prend le pouvoir tout de suite. Ça fait que là, Louis Veuillot écrit beaucoup d'articles à cette époque-là, évidemment, là-dessus. Et puis, il dit, entre autres, il écrit un livre qui s'appelle le Paris sous les deux sièges. Bon, c'est pas des sièges comme ça, là. C'est des sièges, n'est-ce pas, des sièges qui vont plutôt par-dessus la ville, puis qui retombent, puis ça fait beaucoup de fumée. Et puis, alors, les deux sièges. Donc, le siège intérieur, alors, tous les communistes, parce qu'il y avait déjà des communistes à cette époque-là, déjà des socialistes. Alors, eux autres, c'est là qu'on voit vraiment que les communistes, ils ne sont pas nationalistes pour aucun État. C'est leur doctrine, c'est eux qui veulent prendre le pouvoir, puis ils vont prendre les occasions qui vont se présenter. Pour eux autres, c'est la fin qui justifie les moyens. Donc, qu'est-ce que font nos braves communistes? Ils font une révolution, ils veulent prendre le pouvoir, pendant que les autres essayent de repousser les Allemands. Bon, finalement, il va y avoir un armistice. On va donner l'Alsace et la Lorraine à l'Allemagne, n'est-ce pas? Ça va rester comme ça pendant 50 ans à peu près. Et puis, mais de toute façon, ça parlait pas mal allemand là-bas, déjà. Là. Ils n'ont pas eu trop de difficultés d'adaptation, malgré ce qu'on en dira, là, mais c'est ça. Et puis, là, à ce moment-là, c'est l'armistice, c'est la révolution, mais on réussit quand même à empêcher les communistes de prendre le pouvoir. Et puis, on élit un gouvernement qui, comme d'habitude, va être plus ou moins pour les uns, plus ou moins pour les autres. Donc, on essaye de satisfaire tout le monde. Et puis, on met comme chef de l'État, à ce moment-là, un monsieur qui s'appelle Thiers. Thiers, c'est ça. Ça fait que, lui, le monsieur, il est comme tout le monde. J'en parlerai pas plus que ça vaut pas la peine, là. Bon, évidemment, il est contre les catholiques, ça, tout de suite, on le sait. En plus de ça, qu'est-ce qui se passe? C'est que suite à cette guerre-là, il y a eu d'autres petites guerres aussi un petit peu ailleurs, là. Entre autres, j'en ai pas parlé beaucoup, mais ça a duré assez longtemps, le conflit contre les États pontificaux, qui a duré plusieurs années. Et puis, en 1871, c'est Victor Emmanuel qui, à ce moment-là, se proclame roi, puis prend le pouvoir en Italie et spolie les États pontificaux. Donc, c'est-à-dire qu'il dit au pape, je m'excuse, mais ce qui est à toi est à moi maintenant, à partir d'aujourd'hui, et puis ce qui est à moi reste à moi et n'est pas à toi, donc tu n'as plus rien. Et puis, autrement dit, ça se résume comme ça. Alors, imaginez-vous Rome, toutes les institutions catholiques à cette époque-là, toutes les congrégations romaines qui sont éparpillées un petit peu partout, qui avaient la ville, sont obligées de laisser tous leurs bâtiments, qui deviennent des casernes de soldats, qui deviennent des théâtres, des gymnases, des écoles, tout ce que vous voulez, sauf des bâtiments religieux. Et donc, le Saint-Siège est fortement ébranlé à cette époque-là. Il est obligé de se restructurer sur une nouvelle base. Et Louis Veuillot va évidemment défendre le Saint-Père, va défendre le pouvoir temporel des papes. Il va montrer que c'est nécessaire pour qu'il puisse accomplir sa tâche spirituelle. Et puis, il va demander au gouvernement, au nouveau gouvernement, il va demander de prendre position en faveur du pape, au moins de protester. Il ne demande pas de faire une guerre, il demande juste de protester contre Victor Emmanuel. Mais M. Thiers ne veut rien savoir, et le Saint-Siège, à l'époque, reste quand même assez calme, parce que, je veux dire, c'est pas le temps pour lui non plus de faire des grandes menaces. Il n'y a plus d'armée, il n'y a plus rien. Bon, donc, il veut surtout du calme. Et puis, Mgr Dupanloup, encore une fois, revient à la charge. De quel côté va-t-il se mettre? Évidemment, il va être contre Louis Veuillot. Il va être pour le gouvernement. Et puis, il va dire, ce qui est arrivé est arrivé. C'est de la faute au pape, finalement, parce qu'il a mal guidé ses affaires. Puis, c'est ci, puis c'est ça. Ça fait que Louis Veuillot réplique. Et puis, qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là? C'est que Thiers va envoyer vers Pie IX un ambassadeur qui est un baron, et puis il va dire à Pie IX, « Ben écoutez, Veuillot, là, il commence à me déranger, puis j'en ai ras-le-bol, j'en ai par-dessus mon chapeau. Là, il faut que, déjà, je m'installe, je suis un nouveau gouvernement, il y a eu une révolution, il y a eu une guerre, puis ça brasse encore dans Paris. » Là, si en plus, il faut que je me mette le roi d'Italie à dos, enfin, vous comprenez, très Saint-Père, il faudrait faire un petit geste, quoi, quelque chose, juste un petit peu de bonne volonté. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Pie IX, là, malheureusement, a une petite faiblesse, politique. Et pour essayer d'avoir, parce que Thiers a promis, si Pie IX fait taire Louis Veuillot, n'est-ce pas? Il a dit, ben là, on va vous donner des garanties vraiment très en faveur du catholicisme, puis on va empêcher les autres de parler contre l'Église, puis tout ça. Alors, peut-être mal conseillé, Pie IX, à ce moment-là, fait une déclaration devant des pèlerins à Rome, dans lequel il parle des différentes prises de position qui ont été faites concernant le pouvoir temporel des papes. Et puis, il blâme les libéraux qui sont insoumis. On voit que Mgr Dupanloup n'est pas un modèle de soumission vis-à-vis du pape. Et puis, orgueilleux. Bon, quand même, c'est pas mal. Mais malheureusement, il blâme aussi le Parti catholique, sans nommer Louis Veuillot, mais tout le monde le reconnaît, puis il se reconnaît lui-même, de manquer à la charité, et puis la parole est quand même assez dure, malheureusement. Donc, c'est un très dur coup pour Louis Veuillot. Imaginez-vous, ça fait des années qu'il a l'appui du pape, il a eu tous les encouragements de Pie IX, puis de Grégoire XVI avant lui, les encouragements des cardinaux, des évêques fidèles, de la majorité des catholiques, et puis au moment où il défend le pouvoir temporel du pape, qui est une très bonne chose, le pape le blâme de manquer à la charité, puis en des termes quand même assez durs, en disant que celui qui n'a pas la charité n'est pas catholique. Alors, tu sais, pour Veuillot, ça a été un très dur coup. Et à ce moment-là, évidemment, il va se soumettre, parce qu'il est quand même fidèle, et il se sanctifie comme ça, et puis il dit à quelqu'un qui veut le consoler, et c'est un prêtre qui le console, « Monsieur l'abbé, je vous remercie cordialement de la vie que vous me donnez. J'espère que vous croirez aisément qu'il n'est pas nécessaire. » Parce que l'abbé lui disait « Soumettez-vous. » Bon, il dit « J'espère que vous croyez que vous n'avez pas besoin de me le dire, c'est normal. » « L'amour n'est pas plus difficile que la soumission et n'est pas moins grand. » Le difficile est de savoir ce qu'il faut faire, puisque l'action doit suivre. Mais la bonne volonté, aidée de la patience, apprend tout, et l'action devient alors facile comme le reste. Dans la position où je suis, il faut d'abord éviter l'emphase, donc les grands discours, puis tout ça. Ne dire que le strict nécessaire et ne point se faire une figure de héros, lorsqu'on est tout simplement un piou-piou, repris d'une faute à la manœuvre. Piou-piou, c'est un terme pour dire soldat de première classe, le petit soldat qui vient d'arriver, là, puis qui a de la misère à tourner à droite puis à gauche. Alors, il se qualifie, Veuillot, de piou-piou du bon Dieu. Et puis, son chef, c'est le pape, puis le pape, il dit, hey, ça fait qu'il dit, c'est correct, j'ai manqué à charité, on va dire, puis c'est tout, et puis on va continuer quand même le combat. Ça ne veut pas dire qu'il ne continue pas son combat. Ensuite, c'est pas mal la fin de... Là, il est rendu à 60 ans à cette époque-là. Donc, un an après... ce blâme de Pie IX, Louis Veuillot va aller à Rome... Et puis, il va avoir la grande tristesse de voir Rome habitée par des non-catholiques, par des francs-maçons, parce que le pouvoir de Victor Emmanuel était établi sur la franc-maçonnerie. Et ça va être une très grande douleur pour lui. Par contre, il va revoir Pie IX. Et puis, Pie IX va tout effacer, parce que là, il y a un an qui s'est écoulé. Mais pensez-vous que Pierre a tenu ses promesses? Ben voyons donc. Ben non, il ne les a pas tenus. Ça fait que Pie IX, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'ai été trompé. Alors, il fait venir Veuillot, puis il encourage Louis Veuillot, puis vraiment, ils redeviennent tous les deux dans le bon combat. Je passe ensuite à une autre chose. Le gouvernement, comme d'habitude, interdit l'univers, suspend l'univers pendant 2 mois parce que il est contre la déchristianisation de l'Allemagne par le Kulturkampf de Bismarck, parce qu'il est contre telle dictature en Espagne. Alors, tout ce que dit Veuillot, finalement, le gouvernement l'interdit. Donc, ça crée certains problèmes. Mais, heureusement, c'est juste pour 2 mois ou pour 15 jours. Bon. Ensuite, il y a un autre événement dans la vie de Louis Veuillot. C'est que sa fille, Luce, n'est-ce pas, décide d'entrer en vie religieuse. Alors, c'est bon, là, j'achève, inquiétez-vous pas. Là. Donc, là, il parle de sacrifice, il parle d'adieu. Alors, il écrit à une autre de ses amies, une autre noble, et puis il parle d'adieu. En parlant d'adieu, il en faut faire un autre qui me coûte autant, sinon plus. Ma fille Luce, qui me semble maintenant la plus chère, s'en va visitandine, donc à la visitation Paris-Lemoniale. Je le savais, bon, j'y consentais, très bien, et je n'y croyais pas. Vous l'avez vu, je ne l'ai pas assez montré, et ça a été ma crainte dès le début. J'aimerais ça que vous gardiez l'image de Louis Veuillot comme un soldat du Christ, comme quelqu'un de vraiment catholique. Alors, mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je le savais, j'y consentais et je n'y croyais pas. L'an passé, croyant bien faire, j'avais exigé d'elle un délai d'un an. Elle y consentit de très bonne grâce et je croyais cela oublié. Bon, hein? Donc, il s'est dit, c'est pas pire, elle y pense plus. Mais non, mes chers amis, c'est pas comme ça que ça se passe avec les femmes, surtout avec... quand c'est pour une bonne intention, comme ça. Donc, imaginez-vous que l'année révolue, elle est revenue à la charge, aïe aïe, et m'a dit, Dieu le veut, et c'est maintenant. Bon, que répondre? Fiat, elle entrera le 25 mars. Alors, c'est ça. Toute ma raison me dit d'être content, et je le suis. Bon, donc, spirituellement, intellectuellement, il est très heureux. Il sert le bon Dieu, sa fille sert le bon Dieu et tout. Donc, mais tout mon cœur sent et reconnaît la mort. Cette enfant est charmante, elle est vertueuse, remplie de bon et grand esprit. Elle a des candeurs qui me ravissent, des soudainetés délicieuses, un courage qui s'ignore et que j'admire. C'est une poésie vivante, une fleur. C'est beau, il parle de sa fille, c'est incroyable.
Une fleur. Je disais qu'elle n'était pas faite pour le monde et j'avais la niaiserie de croire qu'elle était faite pour moi. Donc, il aurait voulu la garder avec lui un peu comme bâton de vieillesse. Elle est faite pour moi, en effet, mais comme ces parfums qui embaument la mort et qu'on ne voit pas. Que de fois il faut mourir. Alors là, c'est une réminiscence de tous les deuils qui l'ont frappé. Hein, imaginez-vous, là, c'est sa femme puis quatre de ses filles en l'espace de 2 ans, je pense que c'est quand même raide. Hein? Alors, que de fois il faut mourir. À chaque fois, il s'est senti mourir. Donc, c'est un détachement. Et puis, moi, je pense, en tout cas, je ne veux pas dire que c'était un saint, là, parce que je ne suis pas le pape non plus. Là. Mais en tout cas, disons qu'il s'est approché pas mal, je pense, de la sainteté. Mon cœur est cruellement déchiré. Quand je serai là, quand je verrai fermer cette porte qu'elle va franchir dans quelques heures, comment resterai-je debout? Imaginez l'angoisse. L'amour m'empêchera de tomber. Bon, c'est sa réponse. Je ne veux pas qu'elle emporte ce souvenir, le souvenir d'un père qui défaillerait. Mais, enfin, j'aurai perdu le charme et la joie de ma vie. Ma chère amie, Dieu le veut, donc je le veux. C'est ce qu'il faut, c'est le bien. Disons-le toujours, croyons-le malgré la nature. La nature est créée pour obéir. Fiat voluntas tua est la plus belle, la plus haute et la plus consolante parole que l'homme puisse prononcer, si haute, si belle et si consolante que Dieu lui-même la lui a apprise. Il a mis en nous une voix qui crie « Mon Père ». Nous le disons pour ainsi parler de nous-mêmes, que votre volonté soit faite. Il a fallu qu'on nous l'enseigna, et sans la grâce, nous ne le dirions jamais. Ça prend la grâce pour dire que votre volonté soit faite. Et en terminant, donc, à ce moment-là, il a 61 ans, son autre fille se marie, il est seul, il travaille un peu à l'univers, et puis jusqu'à 70 ans, donc les 9 dernières années de sa vie, il va travailler à l'univers un petit peu. Il va rééditer certaines de ses œuvres,
mais les 5 dernières années de sa vie, de 65 ans à 70 ans, il est un peu dans une période de repos forcé. Il a trop travaillé, ses yeux sont presque finis, il est obligé d'avoir un secrétaire pour écrire, et puis il est très très fatigué, mais son cœur est encore très fort et son esprit très lucide. Et à ce sujet, avant de lire son dernier document, il y en avait un que je voulais lire aussi concernant le fait que... le combat. Bon, OK. Donc, voyez-vous, là, j'ai brossé sa vie. On est rendu à les dernières années de sa vie. J'ai pas encore fini. Disons, j'ai fini, là, mais on va dire que j'ai pas fini pour que je puisse continuer de lire un petit peu certaines de ces choses. C'était un soldat. Un soldat, non pas avec une épée, mais avec une plume. Puis il en a fait des guerres, puis il en a fait du dommage dans le camp ennemi, puis il en a fait des conquêtes. Et puis si la France réussit à se relever, malgré toutes, encore une fois, les entreprises de ses ennemis, puis elle en a eu, les francs-maçons, les communistes, les libéraux, elle a réussi malgré tout à revenir avec le Saint-Siège vers la fin du 19e siècle. Au début du 20e, on a vu une floraison d'œuvres en France presque sans égale au point de vue des missions, à tous les points de vue, au point de vue de l'enseignement. Et puis, tout ça, on le doit en grande partie à Louis Veuillot, parce que s'il n'avait pas été là, il n'y aurait personne qui l'aurait suivi. Et puis, s'il n'y avait personne qui l'a suivi à ce moment-là, eh bien, les ennemis auraient eu la victoire. Ça a pris un homme pour se lever puis pour dire, moi, je refuse, puis moi, je dis la vérité, puis il n'y a personne qui va m'empêcher de la dire, parce que c'est la vérité qui va nous rendre libres selon la parole de saint Paul. Bien, il l'a fait, puis là, à ce moment-là, les autres se sont mis en arrière de lui, ils se sont mis à collaborer avec lui. Donc, on peut dire, en tout cas, moi, je l'appellerais le sauveur de la France. Hein? Puis bon, la France est tellement importante dans l'Église qu'on peut presque parler de sauveur de l'Église. Oui aussi, parce que il ne faut pas oublier qu'il a influencé même Pie IX, puis qu'il a influencé Léon XIII par ses écrits. Il les a influencés. Il a approfondi une doctrine, il a développé une doctrine parce qu'il a vu le premier, peut-être, le péril du libéralisme, et le premier, il en a parlé contre, il a vu les sources et il a lutté. Alors là, je vais lire un court extrait d'une lettre qui est du début de sa vie un peu. OK, ça fait 3 ans qu'il est converti, mais qui va vous montrer qu'est-ce qu'il voulait être par rapport... Il voulait être un soldat du Christ. Et puis, on a vu tout à l'heure, j'ai essayé de le montrer en tout cas, que ça en a bien été un. Alors, il raconte qu'après sa conversion, il est revenu, puis il a quitté les anciens journaux, les petits journaux, là, de rien du tout, là, et puis qu'il a décidé, avec un emploi au ministère, de commencer à écrire dans l'univers. Alors, il dit, « Lassé et dégoûté de mes luttes, parce qu'à l'époque, il luttait, mais il luttait pour de la poussière, pour de la fumée, pour des pouvoirs humains. Alors il dit, « Lassé et dégoûté de mes luttes, j'arrivais à la religion, croyant renoncer à tout combat extérieur. » Bon, il s'est dit, « C'est bien, je vais me lancer dans une vie de piété, ça va être fini. » Mais la religion me fit connaître l'impiété, et je vis bien qu'il fallait absolument décrocher du clou mon épée de journaliste et me remettre en ligne contre d'autres ennemis. Je le fis en gémissant, je l'avoue, et quelquefois encore la fatigue vient me saisir. Mais je regarde notre sainte bannière, je regarde mon épée dont la poignée est taillée en croix, et je me jette dans la mêlée en criant « Dieu le veut !» Le bruit est autour de moi, mais la paix est dans mon cœur. Qu'importe donc, puisqu'il faut combattre, que je combatte ici ou là, qu'importe que le bivouac du soir soit soit sur le sable ou la neige, ce n'est jamais que le bivouac. Ailleurs est la maison, et je sais bien que j'y reviendrai un jour, peut-être demain. D'ici là, trop heureux d'avoir du sang à répandre, des fatigues à subir, de secrètes lâchetés à vaincre, si je murmure, je suis ingrat, et je prie Dieu de ne pas m'écouter. Donc, un combattant. Il voulait combattre, puis je pense qu'il a combattu. Là, on va le voir, c'est le dernier texte. À la fin de sa vie, je vous ai dit justement qu'il était plus capable, à moins parfois une petite collaboration. C'était surtout par des conseils qui continuaient son apostolat. Les gens venaient le voir et puis il les conseillait. Mais physiquement, il trouvait ça très difficile. Et puis il dit, et puis en plus de ça, il y a eu une attaque qui lui a paralysé le bras. Donc pendant un certain temps, il ne pouvait même plus écrire. Son bras était paralysé. Puis avec des traitements, il s'est revenu un petit peu. Il écrit à une de ses amies. « Vous savez, cher ami, que je suis mort les trois quarts du temps. Je n'ai plus que le souvenir, mais rien pour m'en servir. Ma main ne va plus, ni mes jambes, ni mes yeux. Quand je pourrais écrire, je ne puis plus tailler ma plume. Quand je taille ma plume, mon pied boite. Quand tout va, tout me manque jusqu'à nouvel ordre, ni plume, ni papier. Je ne sais plus absolument à quoi je suis bon encore. Soyez sûr que si quelqu'un me regrette, ce ne sera pas moi. » Il y a quand même le sens de les mots. Et puis, donc, c'est quand même, il garde le sens des mots. Et ce sens de les mots, il l'a toujours eu, c'est vrai. Mais il a été beaucoup affiné et affirmé par sa conversion. Alors, l'humour vient avec la grâce de Dieu. Hein, avec le. Quand on a la certitude de la foi, vient le bonheur, vient la paix, et donc vient aussi l'humour et la détente. Ensuite, quel jugement, le dernier texte. Il a dit, il écrit à son frère, c'est en 1879, il a à ce moment-là 66 ans. Et il est malade, comme il l'a dit, et il donne un peu un jugement sur sa vie. Il dit à son frère, « Je suis content d'avoir fait l'univers et d'y avoir donné 45 ans de ma vie. Je ne sais pas si j'aurais mieux fait, ni de quelle chose je serais plus content si je l'avais bien fait. C'était là le champ que Dieu m'avait donné, et c'est celui où j'aurais pu travailler avec le plus de constance et de plaisir si j'avais eu l'avantage de connaître la vraie besogne. » Il était très humble, puis il disait que comme il n'avait pas été formé chez les pères, il n'a pas fait autant qu'il l'aurait pu, parce qu'il a été, et c'est, je pense aussi que c'est vrai, il a été retardé, il a été obligé de tout rattraper par lui-même. Mais enfin, si vous lisez ses livres, je pense que vous verrez que quand même, c'était quand même pas mal. Donc, il dit, « Or, Dieu le voulait, et je m'y adonnais fidèlement. C'est là que j'aurai trouvé ma joie, mon repos, mon labeur utile et heureux. Mais étais-je l'homme qui valait ce travail, et même qui savait se rendre digne de ce travail? » À la fin, au soir de sa vie, à la fin de sa vie, il se demande s'il a bien fait tout ce qu'il a pu. Puis moi, je vous dis, les toutes choses que je vous ai dites, c'est rien. C'est, je veux dire, tu sais, en tout cas, c'est rien, j'en ai même. C'est un résumé, puis j'ai passé bien vite. Ça fait que, imaginez toutes les luttes qu'il y a eu à faire, puis lui, il dit, ben, je ne sais pas si j'ai tout fait ce que j'aurais dû, tu sais. En tout cas, et il demande de prier pour lui. Puis, un autre moment donné, puis je vais finir là-dessus. Il avait écrit un. Oui, là, c'est vrai, par exemple, c'est pas une menterie. Je m'attache à la vérité et je vous. Promets que c'est vrai, c'est la fin. Donc, c'est même l'épitaphe, parce que je vais vous lire l'épitaphe que Louis Veuillot s'est composé pour lui-même, puis il a voulu qu'on mette ça sur sa tombe, sur sa pierre tombale. C'est l'épitaphe qu'il a voulu qu'on grave sur sa pierre tombale. Et puis, il nous a livré cet épitaphe-là dans un livre qu'il a écrit. C'est là qu'il a dit, ben. Voici, si je meurs, voici, je veux qu'on, qu'on me donne cette épitaphe-là. Alors, c'est une poésie en même temps. Alors, bon, je suis pas un poète, là, mais disons qu'on va faire notre possible. Placez à mon côté ma plume, sur mon front le Christ, mon orgueil. Sous mes pieds, mettez ce volume, et clouez en paix mon cercueil. Après la dernière prière, sur ma fosse, plantez la croix. Et si l'on me donne une pierre gravée dessus, j'ai cru, je vois. J'espère en Jésus, sur la terre, je n'ai pas rougi de sa loi. Au dernier jour, devant son Père, il ne rougira pas de moi. C'est les dernières paroles.
Justement pour remercier Patrick, quelques petites précisions.
Je le savais.
Dans la guerre de 1870, Napoléon a refusé d'aider Pie IX. Il a permis par son refus que soient spoliés les états pontificaux. Et quelques deux ans plus tard, les Allemands sont venus en touristes en France, n'est-ce pas ? Et ils ont pris l'Alsace et la Lorraine, et ça faisait exactement la même surface de terrain que le pape a Jutterby.
Ah oui.
Et Nancy est restée française. Vive la France ! Deuxièmement, à Alger, le roi Louis Charles X a pris l'Algérie pour qu'elle soit catholique. Deux mois avant, il a reçu l'ambassade des Anglais. Et les Anglais lui ont dit « Restez en France ». Charles X a dit « Restez en Angleterre ». Charles X est allé délivrer la Méditerranée qui était infestée de pirates et de terroristes. La première action qui a été faite à Alger, ils ont supprimé le croissant et le... Pas le croissant, le drapeau. Ils ont placé la croix et ils ont dit une messe. La première chose. 15 jours après, c'était les trois glorieuses de juillet et Charles X était mis à part de France. Donc l'Algérie avait été prise pour être catholique. Et les francs-maçons, avec à la tête la Queen, ils ont refusé. Le roi Victor Emmanuel d'Italie, franc-maçon, a été assassiné avec l'aide d'un très grand personnage de la tuerie romaine par la franc-maçonnerie. Vous avez ce livre, cette histoire d'une petite personne en vente dans les procures. Bon. Vous vous êtes posé la question de savoir si vous nous avez montré Louis Veuillot catholique. Vous y êtes arrivé. Et la dernière chose, s'il vous plaît, écrivez une histoire de France avec l'accent canadien.
Pour l'Église, donc on a fait par exemple.